Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Histoire de savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Le syndrome de Peter Pan, est-ce que ça vous dit quelque chose? En tout cas, des étudiants de la H2B de Fray se sont posé la question et en ont fait un podcast durant leur cours d'éducation aux médias et aux technologies de l'information et de la communication. Je vous laisse découvrir le syndrome de Peter Pan avec eux et elles. Bonne écoute!
Salut, c'est Juliette du podcast que j'ai lu. Avec mes confrères Coralie et Lucas, nous sommes trois étudiants en dernière année à la Haute École H2B de Fray, en section éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif. Et dans le cadre de notre cours d'éducation aux médias, nous réalisons un podcast abordant la thématique du grandir, et plus particulièrement, du syndrome de Peter Pan.
Peter Pan, une figure, insignifiant, aux multiples sens et résonances, un corps condamné à demeurer dans une enfance figée qui ne grandit pas. Immuable, immortel, éternel, c'est le syndrome de Peter Pan que nous avons décidé d'explorer aujourd'hui. Le syndrome de Peter Pan, un mythe ou est-ce réel?
Et c'est ici que nous découvrons le point de vue de multiples intervenants, sociologues, éducatrices et philosophes.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Je suis Roland Paulfait, je suis formateur d'éducateurs et d'éducatrices spécialisées à la Haute École de Bruxelles, Brabant, donc à l'avenue de Fray, depuis près de 20 ans, et sociologue de formation.
Voilà, donc je m'appelle Déborah Fabré, je suis éduc de formation et j'ai travaillé pendant 25 ans comme éduc, essentiellement dans le domaine, dans le secteur du handicap mental sévère à profond, avec des personnes vieillissantes. Et sinon, en fait, je suis prof de Fray en éducation média, en TIC, mais aussi en réflexion professionnelle, AIP.
Pour vous, que représente l'histoire de Peter Pan et le personnage de Peter Pan?
Alors, l'histoire de Peter Pan, c'est pour un sociologue, ça peut être intéressant de travailler la notion de Peter Pan. Pourquoi? Parce que ça raconte l'histoire de la disparition de l'enfance. C'est le critère en fait qui est présent dans ce mythe de Peter Pan, cette histoire. C'est pour ça que j'aime bien assez bien la version en BD de Loisel qui exprime assez clairement ça, c'est qu'en fait le monde de l'enfance en fait disparaît à partir du moment où l'imaginaire en fait commence à s'estomper, où en fait le monde apparaît aux yeux de celui qui grandit comme plus magique, comme rationnel et très fortement ancré dans le réel. Et pourquoi je dis que c'était intéressant pour les sociologues, en fait, cette histoire-là? Parce qu'en fait, c'est un peu vrai de tout ce qui est les faits sociaux. Les phénomènes sociaux, c'est à peu près pareil, parce qu'en fait, à partir du moment où les gens cessent de croire que les faits sociaux existent, en fait, ils cessent d'exister instantanément. Par exemple, si je vous sors devant vous un billet de 50 maintenant, en fait, qui vous dit que ce billet de 50 vaut 50 euros, en fait? C'est qu'un bout de papier à la con, en fait. Et en fait, il ne vaut 50 euros que parce que l'ensemble des gens considèrent que ça vaut 50 euros. Et donc, du coup, ça a sa valeur réelle, quoi. Donc, du coup, effectivement, c'est un mythe qui continue d'exister. Et en fait, on est un peu tous comme des Peter Pan, quoi.
Si maintenant, vous devez mettre un mot un peu sur le personnage de Peter Pan, qu'est-ce qu'il pourrait interpréter en deux mots?
En deux mots, je caractériserais un personnage comme Peter Pan comme quelqu'un d'obstiné, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais quelqu'un d'obstiné, quoi. Il veut obstinément pas grandir. Il veut obstinément arrêter de croire que la magie... il veut absolument continuer de croire, en fait, que la magie existe. Et je trouve que c'est une belle obstination.
C'est super drôle parce que l'histoire de Peter Pan, je l'ai connue super tard. Je crois que c'était avec Hook, quand Hook est sorti. Donc c'était un film avec Robin Williams. Et avant ça, en fait, c'est pas un truc qui m'a marqué quand j'étais gamine, en fait. Peter Pan, on m'a pas raconté Peter Pan. À côté de ça, j'ai vu Blanche-Neige, j'ai vu Roxy Rookie, enfin voilà. Mais Peter Pan, c'était pas spécialement dans ma sphère. Et donc, l'histoire de Peter Pan, j'ai trouvé d'abord que c'était un sale gamin. Et puis, j'aimais bien son idée d'avoir une île... Enfin, c'était pas une île, c'est le monde des enfants. Enfin, si, c'est l'île des enfants, hein. C'est l'île des enfants, je trouvais ça assez sympa, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai vu Hook, j'étais animatrice pas trop. Et donc voilà, donc il y a tout un imaginaire en fait qui était assez sympathique. Mais je le trouvais très tyran au départ, en fait, ce Peter Pan.
Ok, et comment vous interpréterez ce personnage, vraiment le personnage en lui-même? par rapport à l'histoire, par rapport à tout ça.
Bah clairement, il le dit, quoi, il veut pas grandir. Et c'est marrant parce que quand on est enfant, là, ce qu'on veut absolument, c'est grandir. Et puis en fait, quand on est grand, la seule chose qu'on veut, c'est se dire, je veux un peu moins de responsabilité, donc je redeviendrai bien un peu petit. Et donc c'est marrant, c'est cette contradiction du seul enfant qui veut pas grandir, quoi, alors que tous les autres veulent grandir. Et Peter Pan, du coup, je me demande si ça s'adresse pas plus aux adultes qu'aux enfants, en fait.
Le syndrome de Peter Pan, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour vous ?
Ah, c'est ce côté en tant qu'adulte, c'est pas de pas vouloir grandir parce qu'en fait on n'a pas le choix. Et de toute façon, tu te chopes des responsabilités sur le dos assez vite. Mais c'est ce côté de garder, de rester une part enfant, en fait, quelque part. On l'est tous, hein. Mais en fait, c'est soit on admet cette partie-là de nous, on l'assume et même on peut la revendiquer. Et voilà, le syndrome de Peter Pan, pour moi, c'est ça, c'est assumer cette part d'insouciance et d'enfance qui peut rester.
Quel pourrait être l'impact du syndrome de Peter Pan au niveau sociologique, au niveau sociétal ?
Alors, en fait, pour moi, le syndrome de Peter Pan, il n'y a pas d'aspect positif ou négatif, en fait, à l'affaire, hein, mais évidemment, là, je l'aborde sous un côté relativement favorable, en disant que bah, c'est bien d'entretenir un petit peu la magie, l'imaginaire. Mais en même temps, ça peut être aussi une super technique d'entourloupe, quoi. C'est-à-dire que on continue de faire croire que vous serez youtubeur ou footballeur professionnel quand on sait pertinemment que vous n'avez strictement aucune chance d'y parvenir. Et donc, c'est aussi une façon de maintenir pendant un long laps de temps des gens dans l'illusion et occulter en fait les rapports de force et de domination qui sont présents dans la société. Et donc, je trouve ça en même temps à la fois très cool, a priori. Quand on est dominant, en fait, qu'on est plutôt du côté des dominants, c'est plutôt assez sympa. Mais par contre, quand on est côté des dominés, en fait, maintenir les gens dans l'illusion que des mythes existent, en fait, c'est quelque chose qui peut être assez bien manipulé pour asseoir, en fait, des rapports de domination. Donc, il y a un lien avec la notion de violence symbolique chez Bourdieu, par exemple, où on maintient le fait que la violence symbolique, c'est le fait que c'est de faire intérioriser aux gens les raisons de leur domination, quoi. C'est que les femmes finalement acceptent leur situation de domination parce qu'elles trouvent ça a priori cool, en fait. En fait, que c'est chouette de s'occuper des enfants à la maison. C'est chouette, en fait, de pouvoir être femme au foyer, de pas devoir aller au turbin tous les matins, par exemple. Et donc, elles vont intérioriser des tas de trucs comme ça. Et en fait, elles précisément occulter, en fait, qu'elles sont prises avec des rapports de violence, quoi. Des rapports qui les écrabouillent, qui les écrasent.
Quel serait l'impact au niveau d'un point de vue philosophique, d'après vous ?
Alors, d'un point de vue philosophique, comme ça, à chaud, ce qui me vient, c'est d'abord la question de la norme. Puisqu'évidemment, qu'est-ce que ça signifie refuser de grandir ? Par rapport à quelle norme ? Ce serait quoi ce qui est englobé sous grandir ? On imagine déjà que ce qui est englobé sous le fait de grandir, c'est de prendre ses responsabilités dans le monde dans lequel on vit. Donc moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est « Ok, le monde dans lequel on vit, bah, c'est un monde, par exemple, capitaliste. Qu'est-ce que ça veut dire prendre ses responsabilités ? Ça veut dire acheter un logement, devenir propriétaire, devenir bourgeois. Avec ça, j'imagine qu'il y a plein de responsabilités qui viennent avec. Ou qu'est-ce que ça veut dire refuser de grandir dans un monde hétéropatriarcal ? Ah, bah, peut-être que ça veut dire refuser d'endosser certains rôles. Peut-être que ça veut dire refuser de devenir mère. Donc, je sais pas. Donc, si on part de ça, bah, l'injonction à la maternité qui pèse sur énormément de jeunes filles, de femmes. Est-ce que ce syndrome de Peter Pan, il sert aussi de fourre-tout à pour décrire des choix de vie qui ne se rangent pas dans les normes sociétales qui imposent une vision de ce que c'est être adulte, en fait. Ça, c'est un peu la première chose qui me vient. Donc, en tant que, en plus, personne qui est particulièrement, qui a refusé de passer son permis de conduire, qui ne sait toujours pas conduire, qui a pris longtemps avant de se décider à quitter son statut de locataire, avant de passer, et qui a même endossé la maternité vraiment tard, mais volontairement. C'est des choses qui me parlent, quoi. Parce que voilà, moi, au sein de ma famille, j'ai souvent été considérée comme l'ado, quoi.
Et maintenant, au niveau, comme vous avez expliqué que vous êtes éducatrice de formation, au niveau de ce travail éducatif, de l'action éducative, quel impact pourrait avoir, que ce soit négatif ou positif, hein, mais le fait de penser, d'avoir cette vision de, comme Peter Pan, du monde imaginaire, du monde des enfants, quel impact est-ce que ça pourrait avoir sur l'action, au final, l'action éducative?
Alors là, bonne question. Ça dépend du public. Voilà, moi j'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap mental sévère à profond, vieillissant. Et donc moi j'avais ce côté, j'étais plus jeune qu'eux quand même. Et dans l'équipe aussi, j'avais ce côté de la personne qui est un peu plus dynamique et qui va un peu... parfois, on m'a déjà dit grandit un peu d'ailleurs. Et voilà, mais du coup, par rapport aux résidents, j'avais une facilité en fait à jouer avec eux, à trouver plein de trucs à faire. Et donc, par exemple, et ça, je reviens avec cette culture en fait qu'on a pu avoir au niveau média, eh bien, j'ai lancé une activité de récit de vie, donc en fait où les personnes se réapproprient un peu leur histoire, mais sachant qu'ils sont non-verbaux et même non-verbaux, enfin qu'ils parlent même pas en langage des signes ou quoi, mais je devais découvrir ce qu'ils aimaient bien en fait, ce qui les avait marqués. Et donc je passais mon temps à regarder des séries des années 70-80, des dessins animés, et c'était marrant de voir leurs réactions. Et donc d'un côté, oui, voilà, j'avais peut-être ce côté Peter Pan, peut-être ce côté un peu adolescente, on l'a fait remarquer. Mais d'un autre côté, il y avait vraiment un impact sur les personnes, puisque à ce moment-là, je voyais ce qui les avait intéressés enfants, ce qui me permettait en fait de créer en fait des ambiances un peu. C'était souvent en individuel où ils étaient deux, hein, parce qu'évidemment ils n'avaient pas les mêmes références. Mais voilà, j'ai pu regarder pendant toute une après-midi Starsky et Hutch. Ça m'a fait beaucoup beaucoup rire parce que je regardais ça quand j'étais gamine, et donc ça me rappelait plein de trucs. Et donc voilà, finalement on était peut-être au diapason. Mais donc je réponds pas à votre question tout à fait, mais donc l'action éducative, ça, elle peut être tout à fait positive. Après, faut garder le truc que si on travaille avec des jeunes ou avec des enfants, ben on n'est pas un enfant et là on a la figure d'adulte. Et voilà. Enfin, d'un autre côté, on peut avoir ce côté culturel qui va faire que on va avoir une approche différente. Mais je pense que voilà, il faut raison garder, comme on dit, trouver juste milieu. Là-dedans, après, je sais pas si avoir le syndrome de Peter Pan, c'est hyper pathologique, ou être adolescent, c'est hyper pathologique. Et puis voilà, pourquoi ce serait pathologique et en quoi ce serait pathologique, c'est ça qui est intéressant aussi peut-être à questionner, quoi.
Pour revenir au syndrome de Peter Pan, pour vous, quel impact pourrait avoir quelqu'un qui reste du coup dans ce monde d'enfant, dans cet imaginaire-là, au niveau sociétal?
Une personne qui se situe en marge du monde a toujours quelque chose d'important ou d'intéressant à apporter à la société. Par exemple, garder un cœur d'enfant, c'est quelque chose qu'on peut souhaiter à tout le monde. Donc je dirais que si on considère que c'est le processus de socialisation qui nous fait perdre de l'empathie, hein, on voit souvent, même les bébés, ils sont très empathiques. Une crèche, les bébés se mettent à pleurer quand d'autres bébés pleurent. Est-ce qu'en fait c'est l'éducation normée, je vais dire, qui nous dissocie de l'empathie? Il y a toutes les instances de socialisation dans ce monde-là dans lequel on vit, en tout cas, ce monde capitaliste, hétéropatriarcal, validiste, raciste, les instances de socialisation nous éloignent d'une capacité d'empathie. Donc ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et du coup, garder un cœur d'enfant, c'est aussi garder son étonnement. Parce que vous me demandiez l'impact philosophique, mais justement, par exemple, moi, je pratique beaucoup d'ateliers philo avec des publics différents. Et je forme les instituteurs, institutrices à faire des ateliers philo en maternelle et en primaire. Et elles sont là pour recueillir l'étonnement des enfants. Enfin, c'est la base d'un atelier philo, c'est vraiment ça. Et l'âge d'or de philosopher, mais de pratiquer vraiment la philosophie, c'est 6-7 ans. Et donc c'est de pouvoir partir de l'étonnement des enfants, ce qui montre bien que plus le temps avance, plus on est blasé, plus finalement on rentre dans une forme d'aliénation qui fait qu'on s'interroge moins sur le monde qui nous entoure, on va plus avoir la même émotion par rapport à la première fois où on a vu un sans-abri dans la rue, par exemple.
Donc, à côté de ce syndrome de Peter Pan, on a aussi le concept d'adolescence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Bah donc, du coup, je vais faire mon intello, hein. Mais je vais faire une citation. Mais Pierre Bourdieu disait « La jeunesse n'est qu'un mot ». Il y a un article en fait qui s'intitule comme ça de Pierre Bourdieu. C'est une interview en fait où il explique qu'en fait quand il dit ça veut dire qu'en fait la jeunesse en fait n'est qu'une construction sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait la notion de jeunesse et donc d'adolescence, elle varie en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Hein, auparavant, bah, en fait, dans certaines sociétés, bah, en fait, dès qu'on a 15 ans, on n'est plus un jeune. Quand on est un adulte, on passe un rituel de passage, tac, tout de suite, en fait, on est considéré comme une personne responsable. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on met sous la catégorie jeune et qu'est-ce qu'on met sous la catégorie adulte? Et en fait, quand on fait un peu ce moment de réflexion ou ce sondage dans la population, on va voir qu'un jeune, c'est quelqu'un qui est responsable, qui est plutôt dans le plaisir, dans le fait de se marrer, qui sait pas gérer son argent, qui sait pas gérer toute série de choses, en fait, qui ne sait pas. Et l'adulte, c'est quelqu'un qui est responsable, qui prend des décisions, qui a une autorité, Et en fait, toutes les caractéristiques qu'on va donner à l'adulte, c'est précisément celles qui lui permet d'occuper les champs de pouvoir, et précisément toutes les caractéristiques qu'on va donner aux catégories des jeunes, c'est précisément ce qui va les exclure du champ du pouvoir. Alors quand on regarde ça comme ça, quand on crée une notion d'adolescence, je me demande dans quelle mesure, après c'est peut-être un peu le réflexe du sociologue, hein, c'est je me demande dans quelle mesure c'est pas une façon de continuer d'exclure une plus grande partie de la population du champ du pouvoir. Et donc de dire qu'en fait, ouais, à 30 ans, t'es pas complètement encore un adulte, quoi. Et donc on peut pas te confier de responsabilité. Et tu peux pas revendiquer du coup un salaire relativement élevé qui te permet d'accéder à certaines positions et un certain statut dans le pouvoir, dans la société, pardon. Et donc j'appréhende cela avec beaucoup de méfiance et de circonspection, en fait. C'est quels intérêts cela sert-il de créer une catégorie de population qui précisément montre qu'il se maintient dans certaines formes d'infantilisation, de jeunesse. Moi, tout ce que je sais, c'est que les gamins qui ont 18 ans, en fait, ceux que je connais, ils essaient de sortir de les doigts des fesses, ils essaient de s'en sortir, de se battre, de fighter, de trouver une place dans cette société, quoi. Et voire même s'ils ne parviennent pas, les hôpitaux pédopsychiatriques sont blindés en ce moment de jeunes gens qui, précisément, angoissent parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne parviennent pas à trouver une place dans la société, plutôt que de... En fait, les ados, ils n'en ont rien à foutre, ils sont juste là pour profiter de la life, profiter de la société, toucher à la limite le revenu d'insertion sociale au CPS, et puis faire du jeu vidéo toute la nuit sur leur console, quoi. C'est pour moi, ça, c'est une illusion, clairement. Voilà. Donc je me méfie de cette notion.
Maintenant, de manière plus spécifique, être adulte, être professionnel, tout en gardant ce syndrome de Peter Pan.
Donc là, on est dans un autre registre. En fait, le problème, c'est la définition. Qu'est-ce que tu entends par le syndrome de Peter Pan, quoi? Si c'est refuser obstinément de rompre avec l'imaginaire, avec le petit grain de folie, etc., etc., ben, à un moment donné, oui, ça va poser un problème d'intégration sociale, quoi. Ça va poser un problème de développement et d'émancipation des personnes. En fait, très concrètement, en fait, si tu maintiens ton syndrome de Peter Pan, ben, taffe pas, reste chez papa, maman, mais revendique pas d'avoir une bagnole, d'avoir ton chien que t'as envie, d'être parti en vacances là où t'as envie de faire. Ben, pour peu que t'aies ce rêve-là et ce désir-là, on s'entend bien que c'est pas, ça, c'est un petit rêve de petit bourgeois, quoi. Mais c'est pas étonnant. Enfin voilà, en fait, je suis un peu. Ouais, je sais pas si ma réponse est très claire, mais je me pose des questions par rapport à ça, parce que je me dis, A priori, oui. Se maintenir une part d'imaginaire. Là, on est OK, quoi. Si c'est ça que t'appelles le syndrome Peter Pan, d'accord. Mais si c'est maintenir à tout prix, quitte à ne plus être apte à jouer un rôle dans la société qui est épanouissant, de contribuer à une vie collective et sociale, là, pour moi, c'est problématique. Et là, c'est clairement quelque chose d'ordre pathologique, quoi.
Alors c'est marrant, adolescence, c'est en fait ces adultes qui restent adolescents. Et donc c'est plus spécialement enfants, parce que franchement, adolescent, qui voudrait rester adolescent? Moi, je voudrais pas rester adolescente. Hein, tout ce qui est, enfin bref, non quoi, c'est la pire période du monde. Mais plutôt préadolescent, alors donc adupré-lescent, je sais pas comment on pourrait trouver. Et c'est ce côté de... Alors, quand j'ai découvert ce terme, j'ai eu l'impression que c'était... qu'il n'y avait pas ça avant. En fait, ça s'est créé, ce terme s'est créé une fois qu'il y a eu les mass médias et toute cette. Vous voyez, tous ces dessins animés pour enfants, ces séries. Et donc, moi, je suis tombée en plein dedans, hein, puisque je suis la génération Candy et Goldorak. Et puis, tout ce qui était Club Dorothée, donc début des mangas en Europe, des mangas animés, hein, des dessins animés. Enfin, je sais pas comment on dit ça maintenant, mais. Et voilà, et toutes ces séries où il y a vraiment eu une sorte de marché de consommation pour les enfants, en fait, et que on a grandi avec ça, et donc on reste avec ça. Donc chez moi, j'ai toujours une figurine de Casimir de L'Île aux Enfants, j'ai un sweatshirt là maintenant de Beetlejuice, et voilà, moi c'est vraiment une culture qui m'a, enfin ça continue à me marquer, quoi. Je peux me balader avec un t-shirt de Mercredi Adams, et voilà, je reste marquée par cette culture. Est-ce que je suis adolescente? Je ne sais pas. Peut-être, en fait. Mais après, est-ce que adolescent, c'est pas aussi des personnes qui restent vraiment coincées là-dedans et qui font un peu les tanguis, comme on dit, qui restent et qui a un refus aussi d'être adulte. Donc là, je sais pas, je connais pas spécifiquement le. Enfin, j'ai pas étudié ça et je suis pas psy, quoi.
Et donc, une dernière question qu'on aimerait vous poser, ce serait jusqu'où peut-on refuser de grandir?
Merci pour cette question, parce que c'est vrai que juste avant, j'ai parlé de l'impact positif sur la société et ce que ça peut nous apporter d'être confronté à une personne qui garde un rapport au monde qui est de l'ordre de l'émerveillement, qui est de l'ordre de la spontanéité, du jeu et de la liberté finalement, puisque être enfant, c'est... On pourrait se dire être enfant, c'est ne pas encore intérioriser trop les contraintes du monde adulte et en même temps... Une autre idée qui me vient, c'est immédiatement que non, le quotidien d'un enfant est un vécu de domination adulte depuis le réveil jusqu'au coucher. Et donc, même ça, ce serait quelque chose à nuancer. Mais en tout cas, disons que quand on est enfant dans un cadre et dans un environnement relativement serein, on garde quand même voilà, cette espèce d'émerveillement au monde, cette espèce de liberté. Et ça me fait penser aussi au fait que votre question, jusqu'où peut-on refuser de grandir, ça me fait penser finalement à la question à partir de quand est-ce que se comporter comme un enfant commence à renforcer les inégalités sociales et de genre dans le monde. Et donc, je pense... le syndrome de Peter Pan se retrouve plus chez des hommes, mais je ne sais pas s'il y a eu des études là-dessus. Et donc, on pourrait se demander, tiens, qu'est-ce qui fait que les hommes présentent plus ce symptôme, plutôt ce syndrome? Et là, il y a plein de choses, évidemment, qui sont de l'ordre de ce que les études sur le patriarcat nous ont apprises. Qu'est-ce que c'est le coût pour un homme, devoir endosser certains rôles qu'ils n'ont peut-être pas envie d'endosser. Ça peut être bénéfique, évidemment, pour la personne, mais ça peut aussi avoir des répercussions pour d'autres personnes. Donc, un homme, par exemple, en couple... qui continue à pas vouloir prendre sa responsabilité de parent à égalité, puisqu'on parle beaucoup de charge mentale, et dans d'autres domaines, on parle de charge raciale, mais voilà, ça c'est autre chose, mais charge mentale au sein des couples, 2025, toujours les questions de tâches domestiques et de fonction des tâches de reproduction, sont quand même continuent à peser plus sur les femmes. Du coup, toutes les fonctions de care continuent à plus reposer sur les femmes, que ce soit le soin aux aînés, le soin aux enfants, le suivi de la scolarité des enfants, tout ça. Et donc là, on peut aussi se dire que dans une certaine mesure, peut-être que ce syndrome, dans ces contextes-là d'inégalité au sein d'un couple, et qui reflète évidemment les inégalités sociales dans la société plus généralement, bah elles sont le reflet de cette domination hétéropatriarcale à la maison, quoi. Et donc ça, je pense que jusqu'où peut-on refuser de grandir, bah, à partir du moment où ça déséquilibre pas totalement les relations qu'on a avec d'autres personnes. Mais par contre, oui, si on a envie de rester Tanguy, mais Tanguy qui n'impose pas de dormir chez ses parents et donc qui n'impose pas son syndrome à ses parents, qui se prend quand même en charge pour subvenir à ses besoins et vivre de son côté, mais qui n'a pas envie ni de rentrer en couple, ni d'avoir d'enfants, mais qui se gère lui-même tout en restant enfant. Qui est certainement le meilleur ami des enfants des cours de récré ou de tout. C'est la personne qui est déchargée de toute cette pression et de toutes les tâches et devoirs, injonctions familiales. C'est vraiment la personne qui peut le plus être en soutien et simplement rentrer dans le jeu des enfants. Bell Hooks, notamment, dans son livre Feminist Theory, elle parle du fait qu'on doit réinventer des modèles d'éducation. Et donc, son chapitre, c'est Revolutioning Parenting. Et donc, elle dit, pour révolutionner la façon dont on vit notre parentalité, il faut pouvoir élargir, évidemment, la cellule familiale nucléaire au quartier, ce qui est évidemment le cas dans plein de sociétés et dans plein de communautés, mais moins dans nos sociétés capitalistes qui se sont vraiment recroquevillées sur la cellule nucléaire. Mais donc, il faut pouvoir ouvrir la question de l'éducation des enfants au quartier, au village, comme on dit. Là, l'éducation appartient à tout le village, à tout un quartier, et il faut pouvoir accepter de déléguer une partie du care de nos enfants à, par exemple, les personnes qui ont refusé d'avoir des enfants ou qui sont célibataires et qui le vivent bien parce qu'elles n'ont pas accumulé toute cette fatigue. Enfin, elles sont dans un rapport justement aux enfants qui est débarrassé de ces contraintes-là et qui leur permet d'avoir une disponibilité pour venir éventuellement en solidarité, en soutien des familles.
Ben, merci beaucoup pour votre partage. Selon Ouvrir Comble, le personnage de Peter Pan que James Matthew Barry a imaginé lui permettrait de ressembler à son frère qui est décédé à l'âge de 13 ans. En effet, à la suite de ce décès, la mère de l'auteur s'est plongée dans un mutisme et s'est renfermée sur elle-même, se rendant ainsi indisponible pour l'auteur. Barry voulait ressembler à son frère afin de se faire aimer par sa mère. C'est pour cela que l'auteur ne voulait pas grandir et rester dans le même espace-temps dans lequel son frère est parti. À travers le personnage de Peter Pan, il parvient à rester à cette période de son enfance. Ce que l'on peut comprendre du personnage du pays imaginaire, c'est cette volonté à rester un enfant à tout prix, et ainsi, pour l'auteur, maintenir cette relation. De plus, Luer et Wolf et Lida ajoutent que le personnage de Peter Pan évoque le deuil, la mélancolie et la volonté d'outrepasser le conflit psychique qu'il vit en voulant ressembler à son frère.
À l'origine, le syndrome de Peter Pan est un concept élaboré par le psychanalyste Dan Quillet en 1983 dans son ouvrage « Le syndrome de Peter Pan ». Plus largement, il caractérise un adulte émotionnellement immature en référence au personnage de fiction créé par Barry, figure emblématique du garçon qui ne voulait pas grandir. L'expression « être un enfant dans un corps d'adulte » illustre bien l'expérience des personnes concernées. Toutefois, ce syndrome n'est pas reconnu par le corps médical. Il n'existe que très peu d'études scientifiques sur le sujet, et il n'apparaît dans aucune classification des maladies mentales. Ce phénomène trouve un écho particulier dans le mythe de Peter Pan, qui, malgré les années, continue de captiver l'imaginaire collectif. Depuis plus d'un siècle, ce personnage incarne le désir d'échapper aux contraintes du monde des adultes en se réfugiant dans un univers intemporel. Avant que l'histoire de Peter Pan, telle que nous la connaissons, ne prenne son essor sous la plume de Barry, ce personnage n'avait rien d'extraordinaire. Il était un enfant comme les autres, mais là où tous ses enfants grandissent, lui demeure figé dans une enfance, refusant d'évoluer vers l'adolescence et l'âge des adultes. Cette résistance au temps fait de Peter Pan un être intemporel, défiant les lois de la nature et échappant à l'idée même du vieillissement et de la mort. Il refuse de se voir vieillir et incarne le fantasme infantile ultime, celui d'un monde régi par le principe de plaisir, la toute-puissance et l'illusion d'une immortalité préservée. Plus une personne a vécu de traumatismes psychiques, plus elle peut être tentée de se réfugier dans un monde imaginaire où seules les expériences agréables ont leur place. Ce refus de grandir peut toutefois se transformer en un véritable handicap. « Bah les pattes, madame, personne ne va m'attraper et faire de moi un adulte. » Ce sont des personnes pour qui la vie psychique d'adulte semble aussi étrangère qu'une langue dont ils ignorent les mots et la grammaire. Dans ce cas, il est possible de supposer l'existence de dysfonctionnements du moi qui entrave la maturation. Le mythe de Peter Pan, symbole de l'éternelle jeunesse, reste profondément ancré dans notre culture. Si l'usure du corps est inévitable, l'esprit, lui, peut tenter d'échapper à l'écoulement du temps en se réfugiant dans l'imaginaire. Pourtant, contrairement aux personnages de fiction, nous sommes confrontés aux limites de la réalité, que nous ne pouvons oublier que par des instants. Ce mythe réactualisé par des figures aussi influentes que le cinéma et la littérature contemporaine témoigne de la force d'une question universelle. Jusque où peut-on refuser de grandir ?
Pour ma part, je vais aborder l'impact du syndrome de Peter Pan sur la vie du quotidien en me basant sur la source médicale News Today, qui est une source anglaise. Donc ce syndrome, il affecte des relations professionnelles, familiales et personnelles. Donc le syndrome de Peter Pan, il peut rendre la vie hyper difficile dans le maintien des relations de couple de manière saine. Et généralement, ces personnes évitent souvent tout ce qui est responsabilité d'adulte, ce qui met une pression injuste sur les épaules du partenaire. Et cela crée une tension et une frustration hyper difficile à gérer et à assumer. Et donc on rentre dans un déséquilibre dans la relation. Ensuite, nous avons la sphère vie professionnelle. Et on nous explique avoir un emploi, c'est hyper compliqué à gérer parce qu'on a du mal, en tant que personne qui a un syndrome de Peter Pan, à gérer sa source de stress vis-à-vis de son emploi du temps, vis-à-vis de sa charge de travail, de ses finances, comprendre que quand on a un emploi, nos comportements ils ont un impact par rapport à l'équipe, par rapport au patron, par rapport à soi tout simplement. Encore une fois, on a du mal à assumer les responsabilités. Et donc, ça peut rendre la chose hyper compliqué à maintenir, et donc on a une stabilité professionnelle compliquée. Ensuite, on a la sphère développement personnel, où on parle de la personnalité de la personne qui a le syndrome de Peter Pan, et on nous explique qu'en fait, elle a beaucoup de mal à exprimer ses émotions, à écouter leur partenaire, prendre un rôle égal dans la relation, et surtout faire face au stress, ce qui est très compliqué pour eux. Et donc, ça entraîne en fait une explosion d'émotions et souvent une tendance à accuser les autres de leurs propres erreurs. Ça peut aussi créer des difficultés à trouver son propre chemin de vie, à fixer des objectifs et à les maintenir. Il y a aussi tout le côté, les traits de caractère de cette personne qui ont, comme je l'ai dit, difficultés à gérer les situations stressantes, les situations inconfortables. Ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'estime de soi, ça les rend hyper dépendants des autres, dans le sens où ils veulent toujours que ce qu'eux disent soit validé par l'autre, ce qui entraîne encore une fois un déséquilibre total dans les relations à l'autre. On a aussi un gros trait narcissique qui est encore une fois compliqué dans la relation sociale, professionnelle, amoureuse. Et enfin, on peut avoir une vision hyper déformée de la réalité où en gros, ils mettent de côté leurs besoins et ils font une fixette juste sur l'autre.
Silencieux et difficile. cher. Oui, mais autant vouloir se tuer. Dans son lit couché, en espérant une balle perdue. She's une balle perdue qui marche dans les rues. Son cœur n'attend plus. Une balle perdue, juste une balle perdue qui marche dans les rues. Sans qu'on n'attend plus, rien qu'une balle perdue. Je n'attends qu'elle. Oui, mais autant vouloir se tuer. Dans son lit couché, en espérant une balle perdue.
Juste une balle perdue qui marche dans les rues. Son cœur n'attend plus.
Yeah.